Voilà, merci Seigneur pour ces témoignages de sa puissance et de sa protection. N'est-ce pas, on sait que chacun d'entre nous, si on est sous la protection du Seigneur, eh bien, on est en sécurité. Alors quelquefois, certains sont tués, mais quelquefois, ils sont épargnés par la grâce de Dieu. Et de toute façon, tout est grâce. C'est le Seigneur qui choisit, qui décide. J'aimerais qu'on parle du livre de Ruth, enfin plutôt de l'histoire de Ruth dans la Bible, un petit livre qui est tellement riche dans ce qu'il enseigne. Et là aussi, on va travailler un peu sur le sens des noms. C'est pour ça que je mettrai comme titre à mon message « Quel est ton nom ?» Et c'est important de savoir effectivement le nom qu'on porte, le nom qui nous a été donné. On a reçu un nom nouveau quand on a rencontré le Seigneur. Et c'est important pour l'Église de Pergame, il est dit que celui qui vaincra, il a reçu un nom nouveau, n'est-ce pas? Et que personne ne connaît si ce n'est celui qui le porte. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, est-ce que vous savez quel est le nom qui est sur vous? Est-ce que vous avez reçu ce nom nouveau? Pas littéralement, c'est-à-dire si vous n'avez pas changé de prénom. Mais vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, une manière dont il vous appelle, qui est particulière à vous. Et la première chose qu'on lit dans le livre de Ruth, c'est que ils ont dû quitter donc Naomi, qui était une femme d'un certain âge, qui son mari, Élimélec, c'est les deux fils et leur femme ont dû quitter Bethléem, une très jolie ville. Et on pouvait penser que voilà, c'était l'endroit idéal, parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Mais ils ont dû quitter la maison du pain, ils ont dû quitter Bethléem parce qu'il y avait la famine. Et là, il y a quelque chose de dramatique, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de dramatique lorsque dans la maison du pain, il n'y a plus de pain à manger. Et je vois ça pour l'Église en Occident. L'Église garde le terme d'église, de maison du pain, maison où là où on peut entendre parler de Jésus qui est le pain de vie, qui est né à Bethléem, qui est né dans la maison du pain. Et pourtant, il y a une famine. Il y a des gens qui sont à la recherche désespérément de Dieu. Ils ne savent peut-être pas que c'est Dieu qu'ils cherchent, mais ils sont désespérés sur la terre, ils voudraient rencontrer un sauveur. Ils voudraient rencontrer le Seigneur, ils voudraient rencontrer celui qui peut les racheter. Et ils vont dans des endroits, ils vont dans des églises en disant peut-être que les chrétiens vont apporter cela. Et ils ne trouvent pas de pain, ils ne trouvent pas le pain de vie. C'est à nous d'être vraiment attachés au Seigneur et de demander au Seigneur pour notre propre vie, mais pour notre Église aussi, qui est toujours le pain de vie. Que Jésus soit toujours à Bethléem, c'est-à-dire dans la maison du pain. Et nous sommes bien sûr la maison de Dieu, nous sommes Bethléem, nous sommes une maison qui doit fournir toujours le pain à ceux qui viennent, qui doit fournir la nourriture spirituelle, qui doit être le pain de vie pour les hommes aussi sur la terre. Et donc voilà, parce qu'il n'y avait plus de pain dans la maison du pain, eh bien ils ont dû partir en Moab. Et Moab était un territoire, au fond, qui était interdit d'une certaine façon, parce qu'il y avait il y avait une malédiction sur ce peuple de Moab. Et cette malédiction, elle était là depuis l'origine, au fond, du peuple de Moab, mais aussi parce que Moab s'était opposé au peuple d'Israël dans le désert. Et donc, ils sont allés là, et cette famille avaient le privilège d'être en famille, n'est-ce pas? Ils avaient au moins cette consolation. Ils avaient souffert de la famine, mais au moins ils étaient en famille. Mais on lit que les deux fils et le mari sont morts. Le mari de Naomi est mort et les deux fils sont morts. Et le mari s'appelait Élimélec, et ça veut dire mon Dieu est roi. Il portait sur lui un témoignage puissant. Il habitait dans la maison du pain. Et sur sa personne portait le nom de Élimélec. Mon Dieu est roi. Pas Dieu est roi. mon Dieu est roi. Et c'est quelque chose, j'ai pensé, c'est un nom merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que d'une manière spirituelle, c'est écrit sur nos fronts, c'est-à-dire pas littéralement, évidemment, mais sur notre personne, c'est écrit « Mon Dieu est roi ». « Mon Dieu est tout-puissant ». Est-ce que les gens, quand ils nous voient, mais c'est une question sérieuse que l'on pose souvent, mais c'est tellement sérieux. Est-ce que lorsque les gens nous voient, ils disent « Son Dieu est grand, son Dieu est roi, son Dieu est tout-puissant ». Ou est-ce qu'ils disent « Bon, c'est sa croyance, il n'y a rien qui prouve qu'il a raison ». Qu'elle a raison. Ou est-ce que notre vie est un témoignage de la puissance de Dieu? Mais pas seulement son nom voulait-il dire « Mon Dieu est roi », mais en plus il était marié avec Naomi, et Naomi ça veut dire « Celle qui a de la grâce, qui est gracieuse ». Et c'est la merveilleuse personne de Jésus-Christ, de Dieu le Père, c'est que il est roi, mais il est aussi plein de grâce. Parce que s'il était seulement roi, alors il pourrait nous traiter comme des sujets, pourrait nous donner des ordres, il pourrait nous guider par la loi, mais il nous guide par la grâce aussi. Et cette alliance de la loi et de la grâce est merveilleusement trouvée en Jésus-Christ et en Dieu, n'est-ce pas? C'est la même, c'est le seul. Et c'est quelque chose de merveilleux, la grâce et le roi, qui sont ensemble, même s'ils ont dû fuir la maison du pain. Mais ils avaient deux fils, et ils ont donné des noms terribles à leurs fils. Parce que, au premier, ils l'ont appelé maladie, ou malade, et l'autre fragile. Alors évidemment, c'est très vraisemblablement parce que à la naissance, ou très tôt dans la vie, le premier était malade, et l'autre était fragile. Mais c'était aussi un témoignage de l'état spirituel de Bethléem. C'était un témoignage de la famine qui allait venir. C'était une prophétie d'une certaine façon, c'était une description parce que les noms avaient un sens particulier. C'était une description de l'état spirituel. Et peut-être ce matin, vous dites, voilà, ma vie a été la maison du pain. Peut-être vous dites, j'ai connu ce passage, cette époque où je pouvais témoigner que mon Dieu est roi, et je pouvais témoigner de la grâce en même temps, qui était parfaitement unie à cette déclaration que Dieu est roi. Mais maintenant, tout ce que j'ai pu enfanter, tout ce que j'ai pu porter comme fruit, c'est la maladie et la fragilité. Et c'est ça mon témoignage. Eh bien, on va voir la suite, on va voir ce que Dieu fait. Et quelquefois, on est là dans un chaînon, on est un anneau de la chaîne. Et parce qu'on n'est qu'un anneau de la chaîne, on se dit, ben voilà, je ne sers à rien, ou ce que je vis c'est terrible, je voudrais être quelque chose de glorieux. Mais ce qu'on doit voir c'est toute l'histoire, du début à la fin, et la merveilleuse place que Dieu choisi pour nous, et ce que Dieu fait dans nos vies, c'est un maillon d'une chaîne extraordinaire. Et là, on voit que tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé là, qui paraissait dramatique, qui paraissait tellement négatif, c'était pour la gloire de Dieu. C'est que Dieu voulait faire quelque chose de merveilleux. Et que si ça ne s'était pas passé comme cela, le merveilleux ne se serait pas passé non plus, quand on le regarde à la dimension de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. J'aimerais juste rappeler que c'était important cette notion de pain qui manque à Bethléem, parce que quand vous lisez dans la construction du temple, et on va revenir une ou deux fois dans le temple, dans la construction du temple de Salomon, il y avait un endroit qui était prévu pour l'Arche de l'Alliance, le lieu très saint, n'est-ce pas? Et en fait, on lit d'ailleurs de manière assez intéressante qu'ils avaient étrangement prévu trop petit, puisque l'arche dépassait du lieu très saint. Ça m'a frappé, j'ai découvert ça ce matin. Mais ce n'est pas ça l'objet, c'est que l'arche de l'alliance a été placée dans le lieu très saint. Et il nous est dit qu'il n'y avait rien dans l'arche de l'alliance. Or, on lit quand ils étaient dans le désert et qu'ils ont fait la tente, le tabernacle, eh bien, ils avaient placé la manne, ils avaient placé le bâton d'Aaron qui avait fleuri, n'est-ce pas, et ils avaient placé les 10 commandements. Et là, il nous est dit qu'il n'y avait rien sauf les 10 commandements, les 2 tables de la loi. La manne était partie. Le bâton d'Aaron était parti. Et je me dis, c'était un signe de Dieu en disant, voilà, maintenant, ma relation avec les hommes sur la terre, ce sera une relation de loi, gérée par la loi. Je vais pouvoir les diriger par la loi. Ma présence au milieu d'eux, ce sera par la loi. Mais il manquait la manne. Et dans votre vie, peut-être, vous pouvez dire, moi, un jour dans ma vie, il y avait la manne. Il y avait le pain qui était là tous les matins. Il y avait ce pain qui me nourrissait, qui me donnait les forces, qui me bénissait tous les jours. Et maintenant, la manne a disparu. Il y avait ce bâton qui avait fleuri, qui était le témoignage que la vie avait poussé sur quelque chose de mort. J'avais ce témoignage en moi qui déclarait volontiers à mon esprit que j'étais enfant de Dieu, qu'il y avait eu un miracle dans ma vie. Et ça n'est plus là. Tout ce qui me reste, c'est la loi de Dieu. Tout ce qui me reste, c'est d'essayer d'obéir plus ou moins bien et d'avoir des problèmes de conscience parce que j'arrive pas à obéir à la loi. Mais elle est là toujours pour me rappeler que je suis en tort. Elle est là pour me rappeler que je n'arrive pas, que je n'ai pas de puissance. Et c'était ainsi que se trouvait l'Arche de l'Alliance dans le temple de Salomon. Mais tout ça, c'était dans le plan rédempteur de Dieu. C'était dans le plan du rachat de Dieu. C'était un épisode, n'est-ce pas? Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Et on va voir la glorieuse suite de cela. Vous savez que Élimélec est mort, que les 2 fils sont morts, la maladie, la fragilité. Ils sont morts, ils n'étaient probablement pas très résistants. Et voilà que Naomi ou Noémie se trouve seule avec ses 2 belles-filles. Et l'une s'appelle Orpa et l'autre Ruth. Orpa, je n'ai pas cherché longtemps, mais je n'ai pas trouvé de signification pour son nom. Elle porte un nom, mais elle porte un nom qui est ambigu, qui semble être sans intérêt particulier. En revanche, Ruth porte un nom qui veut dire amitié. Et on voit que ces 2 filles ont le même esprit vis-à-vis de la belle-mère. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec leur belle-mère, à juste titre parfois. Mais voilà, ici, c'est 2 femmes qui aimaient leur belle-mère et la belle-mère aimait ces 2 belles-filles. C'est comme ça que ça doit être dans les familles. J'ai le privilège d'avoir une belle-mère qui m'aime et que j'aime. Et c'est toujours un privilège quand c'est comme ça. Mais ce n'est pas toujours aussi facile dans les situations. Mais là, c'était facile, semble-t-il. Et l'une, vous savez, a décidé, sous la pression de Naomi, de retourner en Moab vers son peuple. Et l'autre, Ruth, a dit « Non, moi, je vais rester ». Et l'engagement qu'elle fait avec Naomi, c'est un engagement semblable à celui du mariage. Mon peuple sera ton peuple. Mon peuple sera ton peuple et mon Dieu sera ton Dieu. Et là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. C'est une déclaration extraordinaire. J'ai lu dans une traduction différente et c'était « Il n'y aura que la mort qui nous sépare », n'est-ce pas, comme on prononce au mariage. Mais c'était une union parfaite entre les deux, une fidélité extraordinaire. Et c'est un témoignage vis-à-vis de Naomi extraordinaire. Et néanmoins, on va voir que Naomi, lorsqu'elle retourne à Bethléem, eh bien les gens disent « Ah, mais c'est Naomi qui nous a quittés depuis si longtemps ». Il y a au moins 10 ans qu'elle était partie. On la reconnaît, c'est Naomi. Et Naomi a dit « Ne m'appelez pas Naomi, ne m'appelez pas gracieuse. Appelez-moi Mara, appelez-moi amertume. » Parce que dans mon cœur, il y a de l'amertume, elle a dit. Et dans une traduction que j'ai lue, elle, selon si la traduction est exacte, elle aurait dit « parce que Dieu m'a fait du mal ». Et peut-être, voilà une situation que vous connaissez dans le cœur. Vous avez de l'amertume ce matin. Vous avez dans le cœur quelque chose d'amer et vous dites « Dieu m'a fait du mal, j'en veux contre Dieu, je ne suis pas content ». Il y a quelque chose d'égoïste dans l'attitude de Naomi, parce qu'elle est en train de se plaindre de sa situation. Je respecte tout à fait ce qu'elle a connu, la difficulté, mais elle est en train de se plaindre ouvertement. Elle est en train de dire combien elle est malheureuse, et à côté d'elle, elle a une belle fille qui avait un avenir extraordinaire, en toute apparence, en Moab, qui a renoncé, qui a perdu son mari en étant jeune, qui a renoncé à son peuple pour, par fidélité à Naomi. Et sachez que quand vous vous plaignez, il y a quelque chose de très égoïste. Et quand vous vous plaignez, vous êtes en train de déclarer que moi, je suis roi, ou moi, je suis reine. Vous n'êtes plus en train de déclarer mon Dieu est roi, parce que mon Dieu est roi est mort, comme Élimélec était mort. Vous êtes en train de dire je suis reine, je suis roi, et je ne suis pas content de ce que Dieu a fait pour moi. Je ne suis pas content du service. Je vais réclamer, je vais me plaindre. Quelqu'un qui se plaint est égoïste. Quand vous vous plaignez, vous devez dire « je suis égoïste ». C'est radical, c'est dur ce que je dis, ça s'adresse à moi en premier, et d'autant plus fort que c'est moi qui le prononce. Mais la plainte est quelque chose d'inacceptable. Ça veut dire que on est en train de remettre en question le plan de Dieu, n'est-ce pas ? Imaginez les lettres de l'alphabet. Imaginez que la lettre A dise « Moi, je veux toujours être à la première place. » Parce que je suis au début de l'alphabet et je voudrais absolument toujours dans les mots être à la première place. Je ne comprends pas pourquoi on me place quelque part de différent. Eh bien, toute la langue serait transgressée, n'est-ce pas ? Si le A disait « Moi, je ne veux pas être un A, je veux être un G ou quelque chose, un J. » Eh bien, toute la langue deviendrait incompréhensible pour nous. Mais les lettres acceptent d'être à leur place parce qu'elles savent, ou elles ne savent pas, mais elles ne contestent pas. Mais parce qu'elles forment, non pas, elles n'ont pas d'importance en elles-mêmes. L'importance, c'est l'association, l'harmonie qu'elles constituent en acceptant la place qu'elles prennent. Et quand il nous arrive des épreuves, comme il a été dit ce matin en introduction, on doit louer le Seigneur. Je sais que c'est très difficile et je veux compatir avec ceux qui se passent par des situations terribles, des situations difficiles. Je le comprends, on ne va pas juger quelqu'un qui se plaint. Mais demandez cette grâce du Seigneur, d'avoir le témoignage sur vous que Élimélec, c'est mon Dieu qui est roi. C'est pas moi. Et ce qui m'arrive, c'est simplement parce que Dieu me met à une place. Et ça a un sens. Comme une note de musique, n'est-ce pas ? Vous prenez la plus belle des compositions musicales et vous changez les notes. Vous faites tous les do d'abord, tous les ré ensuite, tous les mi ensuite. C'est horrible. N'est-ce pas ? Mais il y a quelque chose dans l'harmonie qui n'est pas dans les notes. Chaque note doit mourir pour laisser sa place à l'association, l'harmonie entre les notes. Et c'est ça qui fait que ça parle, que ça touche. C'est ça que la parole, qui fait que la parole peut sortir d'une mélodie qu'on entend. C'est ça qui touche les cœurs, n'est-ce pas ? C'est ça qui fait qu'on a un langage, une parole compréhensible qui touche. C'est quand les mots, les lettres, quand les notes acceptent la place qu'elles ont. Et Naomi, donc, elle se plaignait. « Voilà, je suis, appelez-moi Mara, car le Seigneur m'a fait du mal. » Ruth n'était pas comme ça. Parce que l'engagement que Ruth avait vis-à-vis de sa belle-mère, elle l'avait envers le Dieu de sa belle-mère. Et elle était en cela plus fidèle au Seigneur déjà. Et le Seigneur l'avait repéré. Il a repéré Ruth. Vous savez que le Seigneur repère sur la terre les gens qui marchent comme ils doivent marcher. Est-ce que vous voulez être repéré? Bien sûr, le Seigneur nous connaît tous, il nous connaît par notre nom, il connaît tous notre vie, notre histoire, évidemment. Mais il repère. As-tu vu mon serviteur Job? A-t-il dit dans les lieux célestes. Et je suis sûr qu'il a dit, as-tu vu Ruth? Quelqu'un aurait pu argumenter, oui, mais Ruth, c'est une Moabite. C'est pas une juive. Elle n'est pas du peuple d'Israël. Elle est Moabite. Eh bien, je crois qu'à cela, Dieu répondait, mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu as vu comment? Et Naomi n'avait pas vu comment se comportait Ruth. Il y avait pourtant un témoignage devant elle. Il y avait le pain qui était en train de réapparaître à Bethléem. Parce que c'est Ruth qui a amené le pain à Bethléem au fond, qui a ramené le pain à Bethléem. Par extension, vous savez que Ruth est devenue l'ancêtre de David, du roi David, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est né à Bethléem et il est le pain de vie. Donc, dans l'histoire qu'elle ignorait totalement, son attitude, son comportement était sélectionné par Dieu. Parce que c'est ça qui allait composer cette mélodie, cette composition extraordinaire que personne ne pouvait deviner, si ce n'est Dieu, bien sûr, qui l'a composée. Elle est revenue, ils sont revenus donc à Bethléem, avec l'amertume pour l'une dans le cœur, avec la joie de l'engagement pour l'autre. Et bien sûr, il fallait nourrir, il fallait manger, il fallait prendre de la nourriture. Et il n'y avait pas de pain facilement. Donc Ruth a décidé d'aller glaner. Et encore un trait de la personnalité de Ruth, c'est qu'elle a décidé d'aller derrière les serviteurs pour ramasser ce qui restait. Quelle est la position? Je ne parle pas aux femmes, je parle aux hommes premièrement. Quelle est la position que vous avez vis-à-vis de l'Église? Est-ce que vous dites, voilà, moi j'aimerais bien avoir une place plus importante, je trouve que je devrais être reconnu pour ce que je suis un peu plus. Je me verrais bien pasteur, je me verrais bien ancien, je me verrais bien prédicateur. Si c'est le cas, gardez le secret. Parce que si jamais on apprend ça, on ne va probablement jamais vous demander de prêcher. Celui qui a le droit de prêcher, ou qui a le droit d'avoir une place dans l'Église, avec un nom malheureusement, avec une étiquette dessus qui est regrettable, eh bien, c'est celui et celle, c'est celle et celui qui va accepter de laver les pieds des autres. Si les toilettes sont sales, c'est la responsabilité à qui? C'est la responsabilité aux pasteurs et aux anciens. C'est aux pasteurs et aux anciens de le faire, de se proposer. S'il y en a d'autres qui se proposent, ils sont bénis, ils sont remarqués par Dieu. Mais c'est aux pasteurs et aux anciens de le faire. C'est pas à quelqu'un qui a l'habitude de faire du ménage. Si un pasteur ou un ancien revendique une certaine dignité, il doit démissionner. Parce qu'il doit être la poussière, il doit être le plus petit. Ça veut dire que si on conteste, si on contredit, si on dit du mal, c'est pas grave d'un ancien. Parce qu'il est il reçoit une place de petit. Et il doit honorer cette place. Donc si vous cherchez à être grand, si vous cherchez à être reconnu, eh bien vous n'avez pas cette attitude qui était dans le cœur de Ruth. Ruth a dit, je vais aller derrière les serviteurs et je vais ramasser ce qu'ils laissent. C'est ça qui a touché le cœur de Jésus bien plus longtemps, bien longtemps après. Lorsque Jésus a dit, je suis venu pour les enfants d'Israël, à une femme qui réclamait l'intervention de Dieu pour sa fille. Et il a dit, il n'est pas bon de donner le pain aux autres. Mais la femme a dit, mais il n'est pas bon de donner le pain aux chiens, n'est-ce pas? Elle a dit, les chiens ramassent les miettes qui tombent. Et c'est ça qui a touché le cœur. Il a vu que son cœur était de s'humilier. Quand Abigaïl, si vous connaissez l'histoire d'Abigaïl et de Nabal, lorsqu'elle est allée vers David, elle a dit que je sois, quand il est venu la chercher pour demander après que Nabal fût mort, il est allé la chercher pour demander si elle deviendrait sa femme. Elle a dit que je sois la servante de ses serviteurs. Elle n'a pas dit ah oui, ça, c'est une place qui me convient, ça va. Très très bien. Je m'y attendais, il faut dire. Elle a dit je sois la servante de ses serviteurs. Et c'est ça l'attitude que Dieu veut. C'est l'attitude de cœur, d'humilité de cœur. Est-ce que ce matin, notre cœur, c'est de dire je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de mes frères et sœurs. Et je veux simplement être à leur service. Je veux ramasser ce qu'ils laissent derrière. Parce que je ne mérite pas plus. Je veux être au service des autres. Quel est l'objectif dans ce que nous faisons? Le Seigneur m'a appris ça il y a quelque temps en me montrant, en me posant la question. Quel est l'objectif que tu as dans une prédication? Et c'est très important, ça détermine la prédication. Si l'objectif, c'est de montrer qu'on a travaillé la question, par exemple, eh bien, on va partir dans une direction, n'est-ce pas, particulière. Si l'objectif, c'est de faire comprendre à quelqu'un dans l'assistance ce que j'ose pas lui dire en face, donc je vais essayer de le dire par une prédication. Eh bien, ça prend une trajectoire, la prédication, elle prend un esprit particulier, n'est-ce pas? Mais si l'objectif, c'est de faire connaître Jésus-Christ davantage, la prédication prend un sens. Et ça doit être ça, notre vie, que l'objectif, ce soit Jésus-Christ. Et en fait, Ruth avait dans son cœur cet objectif sans le savoir. C'était miraculeux, c'était la foi. Elle avait l'objectif de Jésus qui devait venir à Bethléem. Elle ne le savait pas, on aurait pu l'interroger, elle aurait dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je n'ai pas cet objectif, c'est qui Jésus ?» Mais elle pointait vers Jésus. Dans Hébreux 11, il est dit que Moïse refusa les plaisirs de l'Égypte. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, qui était Jésus-Christ. Moïse ne connaissait pas Jésus-Christ, mais il le connaissait. Il ne connaissait pas de manière consciente, mais il le connaissait dans son cœur. Et toute son orientation, c'était Jésus, tout le long. Et ça doit être comme ça, n'est-ce pas? Et donc, elle est allée dans un champ pour glaner, et il nous est dit, par hasard, il se trouvait, que ce champ était le champ de Boaz. Voilà encore quelque chose de merveilleux parce que le nom Boaz veut dire la force est en Dieu. Elle était mariée avec Malade et maintenant elle va se marier, mais elle ne le sait pas encore, avec la force est en Dieu. Son beau-frère s'appelait Fragile et maintenant elle va épouser bientôt la force est en Dieu. La force vient de Dieu. Mais elle ne le sait pas et c'est par hasard, n'est-ce pas? Vous voyez que Dieu sait bien faire les choses par hasard. Et donc, elle va dans cet endroit et elle est exemplaire dans son comportement. Elle est fidèle. Les serviteurs ont remarqué cette femme. Ils ont remarqué, ils ne lui ont pas posé de questions, etc. Mais quand Boaz dit, mais c'est qui cette dame? Ils ont dit, ben, c'est quelqu'un qui travaille. Parce qu'elle fait presque pas de pause. Elle fait pas presque pas de pause, d'accord? Est-ce qu'on dit ça de vous au travail? Ou bien on dit il est toujours au distributeur? Elle travaillait. Travaillait ardemment. Elle travaillait pas pour elle. Elle travaillait pour sa belle-mère. Et son cœur était de servir sans se plaindre. extraordinaire. Naomi aurait dû être touchée par ça, et probablement elle l'a été, de voir. Mais l'Éternel l'avait vu, et pas seulement l'Éternel, mais Boaz l'avait vu. Boaz l'a remarqué tout de suite. Et ça, c'est une femme de valeur. Parce que Boaz avait dans le cœur, son cœur était comme le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Le cœur de Boaz était semblable à celui du Seigneur, et il a tout de suite remarqué, voilà quelqu'un qui sert avec fidélité, avec persévérance et avec stabilité. Et donc, il lui a donné l'entière liberté. Il a ordonné à ses serviteurs de faire en sorte même de laisser des restes, sans lui dire que ce n'est pas fait exprès, mais de laisser des restes pour qu'elle ait de quoi se ramasser plus facilement. Et voilà que elle rentre et puis sa belle-mère lui dit « Mais franchement, tu as été bénie, c'est merveilleux. » Et puis Ruth lui dit « Oui, j'ai trouvé quelqu'un qui était bon, qui m'a laissé glaner dans son champ. » Elle découvrait la bonté de Dieu, elle découvrait quelque chose de merveilleux. C'est que le Seigneur nous laisse, le Seigneur nous donne un champ dans lequel on peut ramasser tous les jours de la nourriture. C'était en quelque sorte la manne qui revenait. C'était en quelque sorte cette nourriture céleste que Dieu pourvoyait. Il fallait la ramasser. Combien de gens j'ai entendu, mais je peux vous assurer que toutes ces personnes sont hors champ spirituel maintenant. J'ai entendu des gens qui disaient « Moi, j'ai pas besoin de lire la Bible parce que Dieu me parle tout seul. » C'est des gens dits hyper spirituels. Et l'hyper spiritualité, c'est de l'hypo-spiritualité. C'est même de la spiritualité non existante. Ces gens-là ne tiennent pas du tout s'ils ont moyen de lire, bien sûr, la parole et ne la lisent pas. Pour Ruth, elle aurait pu dire « Je vais attendre à la maison que le Seigneur, le Dieu de Naomi, pourvoie tous mes besoins, tous nos besoins, et que les seaux se remplissent d'orge et de blé. » Elle savait qu'il fallait ramasser. La manne n'était pas donnée dans les pots, à l'intérieur des tentes, dans le désert, ça aurait bien arrangé, peuple d'Israël. Il fallait se lever tôt pour aller ramasser. La parole de Dieu, elle vous est donnée, il faut la ramasser, tous les jours. Il faut vous nourrir. C'est la manne qui revient à Bethléem. Et si il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie spirituelle, vous avez l'impression que c'est la famine, là où ça devrait être la maison du pain, eh bien, ramassez la manne tous les jours. Lisez la parole de Dieu. Passez du temps à méditer la parole de Dieu. C'est une bénédiction tellement grande. Voilà, cette femme est acceptée par Boaz. Et elle va aller plus loin. Sous l'incitation de Naomi, Naomi lui dit « Mais c'est extraordinaire parce que tu sais le champ. Eh bien, il nous appartient. Il appartenait à Élimélec. Il appartient à ton mari. Donc, au fond, c'est toi qui devrais l'avoir. » Mais c'est extraordinaire. Elle fait la tâche la plus vulgaire, la plus basse dans un champ qui lui appartient. Est-ce que tu dis que ton corps t'appartient? Si vous dites que votre corps vous appartient, vous n'avez pas compris ce que Ruth avait compris. Si vous dites « Mes biens m'appartiennent, ma maison m'appartient. C'est à moi, ça. » Vous n'avez pas compris ce que Ruth avait compris. Elle ne réclamait pas pour elle ce qui lui était dû. Elle a accepté la tâche la plus humble à l'intérieur même de ce qui lui appartenait. Donc, Naomi lui a dit « Va demander. » Elle lui a dit, je vais un peu directement là, va demander Boaz en mariage. Donc Ruth l'a fait, Ruth est allée. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait cette démarche de Ruth. Normalement, c'était classiquement l'homme qui allait demander, n'est-ce pas, et c'est toujours le cas dans la tradition, c'est l'homme qui va demander un mariage. Mais là, c'est Ruth qui va demander qu'il puisse acquérir le champ, parce que, et comme, et en achetant le champ, il devait prendre Ruth sous son aile, sous sa protection. Et c'est elle qui va. Et ce matin, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il y a celui qui est la force, le Seigneur Tout-Puissant, qui veut ramener le pain dans ta maison, mais il veut que tu viennes à lui. Ce n'est pas lui qui va venir à toi te demander ce que tu veux, parce que tu as la connaissance. Il le fait à des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu le message. Mais ce matin, il dit, est-ce que tu veux venir? Est-ce que c'est toi qui es prêt, ou c'est moi qui vous dis, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que je suis prêt à venir aux pieds de Jésus, à ses mises aux pieds de Boaz, et pour faire sa demande? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Et Boaz a dit tout de suite, oui, mais. Et le mais a dû faire souffrir beaucoup Boaz et Ruth. Il y avait un mais. Il a dit, il y a quelqu'un d'autre qui a le droit de rachat en priorité avant moi. Et c'est seulement si cette personne qui a le droit de rachat avant moi cède son droit de rachat que je pourrai. Alors vous allez dire, mais c'est pas possible. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a plus le droit de rachat ou droit de rachat avant Dieu. Eh bien, je vais vous dire si. C'est vous-même. Et c'est très intéressant parce qu'il est dit que quand Boaz a convoqué cet homme, il n'a pas de nom. C'est le seul ici qui n'a pas de nom. Il a dit « Viens un tel » et c'est traduit « un tel ». C'est pas qu'il s'appelait Monsieur un tel. C'était qu'il n'avait pas, c'est pas indiqué son nom. Il n'avait pas de nom à donner à Ruth. Donc dans le plan souverain de Dieu, Boaz avait le cœur qui battait, Ruth avait le cœur qui battait, mais Dieu savait qu'il ne donnerait pas Ruth à quelqu'un qui n'a pas de nom. Parce que Dieu nous donne un nom et il veut nous placer en sécurité auprès de gens qui portent son nom, qui portent le nom qu'il a donné. Et cet homme n'avait pas de nom. Et Dieu savait, mais je crois que Boaz devait avoir peur et Ruth aussi. Et je voudrais dire que c'est vous. Vous n'avez pas de nom. Et il y a quelque chose que vous devez céder. Vous devez céder le droit de rachat sur votre propre vie. Vous devez dire non, je ne rachète pas ma vie. Parce qu'on est toujours en train de se battre. C'est la loi qui fait ça. C'est la connaissance du bien et du mal. On est toujours en train de se battre pour réussir dans la vie. On est toujours en train de se battre pour réussir à obtenir quelque chose, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un emploi, pour pouvoir... Est-ce que tu es prêt à céder ce droit de rachat? Ou il y a quelque chose que tu tiens dans ta vie en priorité? Tu dis, Seigneur, oui, tu peux toucher à tout sauf à ça. Il y a donc quelqu'un qui a le droit de rachat. Et Dieu ne pourra pas te racheter. Et vous savez que celui qui rachète, c'est le Rédempteur. Dieu ne peut pas être le Rédempteur, donc ne peut pas être Jésus pour vous si vous ne cédez pas le droit de rachat. Mais il va respecter que vous avez le droit de rachat avant lui. Il va respecter le fait que si vous ne voulez pas, alors ça ne peut pas se faire. Et donc il est venu convoquer, Boaz a convoqué cet homme, un tel, et lui a dit, tu as le droit de rachat en priorité, est-ce que tu veux racheter le champ? Et l'homme a dit oui. Oh. Eh bien c'est ce qui va se passer dans votre vie. Quand le Seigneur va vous demander, est-ce que tu veux garder ce droit de rachat? Est-ce que tu veux user de ce droit de rachat? Il y a quelque chose en vous qui va dire oui. Mais ça ne serait que la misère si c'était le cas. Parce que quand le Seigneur nous rachète, il nous rachète de notre misère. Il y a des gens qui disent, je veux me convertir au Seigneur, mais je veux d'abord voir un peu à quoi je m'engage. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais gagner? Et tout ce que vous allez perdre, c'est votre misère. Parce que c'est vous-même qui dirigez votre vie. C'est votre moi qui dirige votre vie, vos pensées, vos actions. Et c'est la misère. Quand on voit quelque chose comme ce que Lèze et sa femme ont connu, mais c'est extraordinaire. Si Lèze n'avait pas donné sa vie à Jésus, il était sur le chemin pour devenir un brigand, comme il disait. Il est issu d'un milieu où c'était normal de devenir brigand. Mais le Seigneur l'a sauvé. Et voilà des choses extraordinaires qu'il peut connaître. C'est extraordinaire de savoir qu'il y avait des anges autour de la maison. J'aimerais bien que ce soit le cas chez nous. De savoir ça, que le Seigneur, les milliards d'habitants de la terre, a dit « J'ai vu ma servante et mon serviteur, je vais les protéger. Je les ai vus. » Que sur les milliards d'habitants de la terre, il a sélectionné ce soir-là deux personnes qu'il allait protéger d'une manière particulière. L'œuvre de Dieu, c'est extraordinaire. Vous voulez une vie banale, une vie d'échec? Eh bien, acceptez, gardez le droit de rachat. Usez de votre droit de rachat. Votre vie sera misérable. Vous aurez une vie, même si vous atteignez des postes élevés, quel est l'homme politique, la femme politique qui peut dire « j'ai une vie extraordinairement épanouie ». J'en connais pas. Les candidats aux Jeux Olympiques, ils sont extraordinairement exaltés quand ils ont une médaille, mais quand ils ne l'ont pas, ils sont extraordinairement en bas. Et le Seigneur voudrait que tu cèdes ton droit de rachat. Le Seigneur voudrait que tu dises ce matin, Seigneur, je cède ça. Il y a quelque chose que je n'ai pas cédé dans ma vie. Alors je le cède pour que tu puisses racheter tout. Et Boaz a dit, il a dit à un tel, tu sais, si tu achètes le champ, eh bien tu prends Ruth avec. C'est la loi. Elle a dit, non. Non, tu peux racheter. Non, il dit, je ne peux pas. Non, en fait, j'ai trop. Bon. Je suppose qu'il a pensé tout de suite, ça va m'attirer des problèmes. Il ne connaissait pas Ruth. Donc, il a cédé. Et c'est merveilleux parce que c'est alors Boaz qui a pu prendre la place, qui a pu prendre, qui a pu être le rédempteur de Ruth. Est-ce que vous voulez qu'il soit votre rédempteur, Jésus, ce matin? Est-ce que vous voulez que ce soit votre rédempteur? Le mari de Naomi, c'était l'Éternel et Dieu est mon roi. Mon Dieu est mon roi. Est-ce que vous pouvez dire Jésus est mon rédempteur? Peut-être vous pouvez dire Jésus est le rédempteur. Mais ce matin, c'est Jésus qui est mon rédempteur. Est-ce que vous pouvez le proclamer? Est-ce que vous pouvez le dire de manière forte? Dans le temple de Salomon, il y avait deux colonnes à l'entrée du temple. On ne sait pas à quoi elles servaient. Mais l'une des deux, l'autre, j'ai oublié le nom, Yakin peut-être, j'ai regardé ce matin, mais j'ai déjà oublié. Et l'autre, c'est Boaz. Je ne sais pas si c'était en honneur de son ancêtre Boaz, peut-être bien. Mais en tout cas, c'était une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il a dit, dans une église de l'église de l'Apocalypse, il a dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Est-ce que ce matin, nous sommes la manne dans l'arche? Est-ce que nous avons la manne dans l'arche de l'Alliance? Est-ce que dans nos vies, il y a cette manne qui est revenue? Ce bâton qui a fleuri, qui est là à nouveau comme témoignage? Est-ce que nous sommes une colonne dans la maison de notre Dieu? Est-ce que nous pouvons dire et témoigner que l'Éternel est fort, que l'Éternel est glorieux? C'est là le nom que l'Éternel veut nous donner. C'est là ce qu'il veut faire dans nos vies ce matin. Seulement céder le droit de rachat. Dites, Seigneur, je ne veux pas racheter ma vie. Je ne veux pas me battre. Je ne veux pas me battre pour avoir une place, pour avoir un nom. Je veux céder. Je veux céder ce problème dans ma vie que je ne t'ai pas encore cédé. Pour que tu sois le roi, pour que tu sois mon époux, et pour que Jésus puisse venir à Bethléem, à la maison du pain, même si c'est dans longtemps après que ça s'est manifesté. Dans votre vie, ça se manifestera rapidement. Et que Jésus puisse être le sauveur d'autres personnes au travers de moi. Amen.